19h-20h, le 19 hors taxe avec Mélanie.
Et bonjour à tous, le jingle qui est le mieux représentatif ce soir des personnes dans le studio, puisqu'on peut dire avec Mélanie au pluriel. Bonsoir Mélanie, salut.
Bonsoir Mélanie.
Bienvenue à FMR, donc aujourd'hui je suis avec Mélanie Lebas qui est écrivaine. On va découvrir du coup tout ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant, son univers. C'est pas souvent que je reçois des invités côté littéraire, mais c'est toujours un plaisir. On va écouter aussi beaucoup de musique, la musique de sa playlist, c'est Goûts musicaux, c'est cool aussi. On aura des anecdotes de culture générale comme toutes les semaines, et un agenda pour pas que vous vous ennuyez pendant les deux prochaines semaines qui arrivent, parce qu'il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec My Game de Deluxe, c'est un groupe que je passe souvent parce que j'adore, et là tu me fais plaisir. Allez, c'est parti, on se retrouve juste après My Game de Deluxe sur FMR. Queen of the jungle, but don't live in a bungle. Wet my clothes, my elogues, I brush my fangs off. Hogs, there ain't a beast in the east. They wants to make me his feast, 'cause I'm the coolest cat that this town knows. I'm roaming on and on and on. I'm hunting found to dot to dawn. Giving cheers in everybody's lawn. Spinning free when I sing the lazy yarn. I'm roaming on and on and on. I'm hunting found to dot to dawn. Cheers in everybody's life.
C'est l'invité du 19 hors taxe. Attention, il y a des cafards dans l'escalier.
Et l'invité du 19 hors taxe aujourd'hui a un prénom merveilleux, puisque c'est le même que le mien, Mélanie, qui veut dire la brune en grec, c'est ça ?
C'est ça.
Voilà. Et on est brune.
Moi, je suis blonde, mais blonde, c'est raté.
Châtaine très foncée, raté. Alors, Mélanie, du coup, on connaît la couleur de tes cheveux, mais on ne te connaît pas. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu de toi, te présenter en quelques mots, s'il te plaît ?
Donc, je m'appelle Mélanie Lebas, j'ai 30 ans. Je vis à Toulouse depuis 2013, où j'ai fait mes études. Et puis ensuite, je travaille dans l'aéronautique. Donc, c'était un bassin d'emploi approprié. Donc je suis ingénieure dans le spatial, passionnée par tout un tas de choses.
J'ai pu comprendre, ouais.
Notamment l'écriture et la lecture, pas mal par le sport, la plongée sous-marine, les sorties, les voyages, enfin, assez varié.
Passionnée de la vie, c'est cool ça.
C'est ça.
Tu s'intéresser à plein de choses.
C'est un bon résumé.
Alors du coup, tu écris.
Tout à fait.
À quel âge est-ce que tu as commencé ?
Je sais pas mon âge exact, j'étais à la fin du collège, je devais avoir je sais pas 13-14 ans peut-être.
Et tu écrivais quoi ? C'était des petites nouvelles, des BD, tu faisais quoi ?
Donc je vais me confier.
Allez.
Sur mes premiers écrits parce que c'est une anecdote assez drôle. J'écrivais des fanfictions. Donc c'est écrire des récits qui mettent en scène des personnages de la vie réelle.
Ouais.
Et mes personnages de la vie réelle étaient les les membres du groupe de Tokyo Hotel.
Ah oui.
Et j'étais une grande fan
okay.
à l'époque.
Voilà. Je vois la période. J'étais à peu près comme toi. Ok. Donc tu écrivais des fanfictions sur le net. Tu avais un blog peut-être.
Oui, un Skyblog.
Skyblog. Ah ça nous rajeunit pas là.
Non ça nous rajeunit pas du tout.
Ok, t'écrivais et c'était régulier. Donc en fait après. Enfin, t'as continué.
Ouais, c'était surtout pour moi. Après, j'écrivais aussi à la main sur mes petits carnets le soir, comme ça, avant de dormir. J'aimais bien. Et puis, les premières idées de romans ont émergé. Et, bon, ça a mis du temps à se concrétiser, mais c'est à partir de là que j'ai eu envie de continuer à écrire. Et puis, des projets plus. J'écrivais des petites nouvelles avant, et après, je voulais passer sur des romans, quoi.
Alors, du coup, t'as fait des. Là, tu as dit que tu travaillais dans le secteur de l'aéronautique. C'est plutôt un secteur scientifique.
Oui, complètement.
Et en fait, donc du coup, tu as un cursus scientifique, mais oui. avec une passion littéraire.
Exactement. C'est mon équilibre à moi. Justement, je pense que le fait que je fasse un métier scientifique, sur mes hobbies, j'aime bien aller voir vers d'autres choses. Et l'écriture, du coup, ça me donne un équilibre entre plusieurs univers et ça me permet d'être créative différemment. Donc, c'est un petit peu ma bouffée d'oxygène.
Alors, ma prochaine question, c'était comment tu as décidé de te lancer à l'écriture pour le grand public ? Est-ce qu'on peut considérer le grand public comme l'Internet Skyblog ou pas ? Je ne sais pas.
Non, peut-être pas. Mais en fait, au début, on n'imagine pas forcément publier. On écrit surtout pour soi. C'est un peu l'impulsion. Parce qu'on a, je sais pas, on a des choses à dire, des personnages qui tournent dans la tête. Et puis, en fait, c'est au moment où... Donc, pendant l'écriture de mon premier roman, qui s'est étalé sur plusieurs années, au bout d'un moment... Je commençais à trouver que le résultat était satisfaisant. Et puis, à ce moment-là, je m'étais dit, bon, à la rigueur, quand je l'aurai terminé, je pourrais le proposer en maison d'édition. On verra bien. On ne perd rien à faire ça. Et donc, c'est un peu au fil de l'écriture où le projet commençait à devenir de plus en plus sérieux, de plus en plus abouti. Et je me suis dit, allez, proposons-le pour l'édition. Quoi.
Donc, tu as écrit 3 romans.
Oui.
Claire de lune, Même si l'on se perd, et L'océan qui nous lie.
Tout à fait.
Est-ce qu'on peut en parler un petit peu séparément pour avoir un petit pitch de chacun ?
Oui, tout à fait.
Alors vas-y, je te laisse commencer par le premier chronologiquement.
Oui, tout à fait. Donc c'est Claire de Lune, mon premier roman qui est paru en 2021. Donc Claire de Lune, ça raconte l'histoire de Juliette qui est qui étudie au conservatoire de musique c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc elle vit à Paris sous l'occupation. Et son frère a disparu pendant la bataille de France et il réapparaît dans sa vie en lui disant qu'il est dans la résistance. Et qu'il a besoin d'elle pour espionner un officier allemand, puisque leurs parents sont propriétaires d'un hôtel qui a été réquisitionné par la Wehrmacht. Et donc, Juliette vit dans l'hôtel avec des Allemands. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'elle se lance dans des activités clandestines. Et elle va lier une collaboration musicale avec cet officier qui est violoniste également. Et elle va du coup commencer à le connaître. Se rendre compte que c'est pas forcément l'ennemi qu'elle s'imaginait. Et donc voilà, c'est comme ça que l'histoire débute.
D'accord, donc la première, c'était pendant la guerre.
Exactement, Seconde Guerre mondiale.
Ok, la seconde, Même si l'on se perd.
Même si l'on se perd, c'est aussi un roman historique. Celui-ci, il va raconter le destin de deux personnages. Une jeune femme qui est issue de la bourgeoisie. Et donc, ce à quoi elle doit aspirer, c'est de devenir épouse et mère de famille, épouser un homme de sa classe sociale, etc. Sauf que c'est une jeune femme qui est passionnée par la science et qui a envie de faire des études à la Sorbonne. Et donc, elle étudie en secret à la bibliothèque. Et également l'histoire d'un deuxième personnage qui, lui, est fils d'ouvrier et qui est assez brillant et qui aimerait faire des études, monter l'échelle sociale par les études, mais qui, par un drame, se retrouve obligé d'aller travailler à l'usine comme son père. Et en fait, il s'avère que c'est l'usine du père d'Élise. Et donc, voilà, ils vont se rencontrer par ce biais-là et commencer à étudier ensemble en secret à la bibliothèque.
D'accord. Voilà. Et le troisième, L'Océan qui nous lie.
Et L'Océan qui nous lie,
c'est
voilà,
le plus récent. Sorti
tout à fait.
En 2021
Non, cette année, 2023, au mois de juin.
Ah non, c'est autre chose qu'en 2021, on le verra plus tard. Je me perds dans les dates.
L'Océan qui nous lit, pour le coup, c'est un roman contemporain. Donc c'est l'histoire d'une journaliste parisienne qui a complètement perdu le sens dans son métier, qui se retrouve célibataire du jour au lendemain. Et pour tourner la page et retrouver du sens à sa vie, elle plaque sa vie parisienne et s'envole pour la Polynésie française. Et là-bas, elle va faire la rencontre d'un biologiste marin qui est spécialiste des requins. Il est amputé d'une jambe, on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé. Et par un concours de circonstances, elle va se retrouver à embarquer avec lui sur son voilier pour une expédition à travers la Polynésie. Et donc, elle va découvrir les merveilles de l'océan, la culture polynésienne, etc. Et par ce voyage, retrouver du sens à sa vie.
Il y a aussi un point commun entre les trois livres, c'est l'amour.
Exactement, oui.
C'est la rencontre de deux personnes qui ne sont pas censées se rencontrer. Exactement. À la base. Et qui, au final, s'entendent très, très bien.
C'est un peu mon fil rouge. Ouais. Et des thématiques un peu engagées.
Voilà, c'est ça. Exactement. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager, justement, à travers la littérature? Parce que dans les trois livres, il y a quand même des enjeux écologiques, sociaux.
Oui.
Donc, on peut parler du dernier, mais comme des deux autres. Mm-hmm. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer comme ça?
En fait...
C'est pas que du divertissement...
Non, ouais, il y a vraiment. Enfin, j'écris aussi pour explorer des thématiques et des engagements qui me sont chers personnellement. Bah, évidemment, hein, tous les auteurs on met de soi dans nos romans. Hein, ça fait partie de l'exercice, on va dire. Et je trouve que c'est une assez jolie manière de parler de certaines thématiques parce que j'écris pas des livres d'histoire ou des livres sur l'écologie, on passe par la fiction. Et donc, on peut prendre un personnage qui va se poser des questions, en fait, générer des interrogations chez les personnages qu'on explore ensuite et qu'on fait évoluer au fil du roman. Et un peu pousser le lecteur à se poser les mêmes questions, à s'identifier. Et donc, je trouvais que c'était ça me permettait, moi, de répondre à des questions auxquelles, moi, je me confrontais. Et d'explorer à travers les personnages, en fait, de leur mettre à eux les dilemmes moraux et certains questionnements.
Ta propre psy comme ça.
Oui, il y a un peu de ça, hein, clairement. Je sais pas si c'est bizarre, mais en tout cas.
Je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui font ça. Regarde Baudelaire avec Les Fleurs du Mal, au final.
Oui, clairement.
J'avais justement cette discussion hier soir avec un ami. C'est souvent aussi dans les moments de souffrance, de réflexion, que les artistes sont les plus créatifs.
Oui, c'est vrai.
Sur plein d'autres plans.
Après, c'est aussi parfois, même quand on est très heureux dans sa vie, on se pose souvent des questions, même par rapport à l'actualité parfois, etc. Et ça peut faire émerger des idées. Et même des fois, on se surprend, en fait. Nos personnages nous surprennent, parce qu'après, ils vivent un peu leur vie, c'est assez amusant. Et voilà, donc des fois, on n'a pas vraiment les réponses. Hein, et je n'apporte pas de réponses tranchées, mais voilà, ça permet de...
Alors, comment peut naître une histoire comme ça dans ta tête Comment tu te dis, bon alors, ça, tu rêves la nuit, peut-être, et tu te dis, ouais, c'était sympa, je vais peut-être partir de là pour faire un livre. Voilà, comment tu peux te dire, ça va peut-être un bon livre? Et pas juste...
Ouais, c'est une bonne question parce que il faut quand même suffisamment d'éléments pour pouvoir construire une histoire. Des fois, ça part juste d'une idée, d'une simple idée, mais ensuite il faut un peu. C'est comme si on tirait un fil de laine et qu'il faut ensuite continuer à le tirer, et aller explorer où est-ce qu'il peut nous emmener. L'idée de base, ça peut être soit un thème, un lieu, un personnage parfois. Typiquement, Claire de Lune, c'était vraiment le personnage de Juliette, l'héroïne du roman qui m'est venue avec cette espèce de dilemme entre sa vie de résistante, et les sentiments qu'elle pourrait développer pour l'ennemi allemand, quoi. Pour L'océan qui nous lie, c'était vraiment aussi les personnages où une jeune femme qui perdait un peu le sens de sa vie, qui avait envie de partir, se reconstruire, etc. Et la destination de la Polynésie me parlait beaucoup. Et ensuite, une fois qu'on a cette idée de base, ben, je fais un peu des brainstorming avec moi-même. Donc, c'est vraiment des phases où... Des fois, c'est juste quand je suis sur mon vélo ou quand je suis allongée sur la plage ou juste quand je suis sur mon canapé. Et je prends le temps de réfléchir et de commencer à construire des briques, de réfléchir à ces personnages, quel trait de caractère ils pourraient avoir, les grands événements de l'histoire. Et en fait, voilà, on commence à avoir un patchwork, imaginer ce qu'on appelle les bascules narratives dans un récit, un peu les événements clés qui vont construire le roman. Et puis, une fois qu'on commence à avoir ces éléments un peu plus clairs, et ben là, on peut démarrer l'écriture. Après, chaque auteur fonctionne un peu différemment, mais moi, c'est un peu comme ça que je...
Alors, j'ai une question peut-être un peu farfelue. Est-ce que tu as un tableau chez toi où tu fais des liens, tu mets les photos des personnages, des dessins, tu te dis, voilà, tu lis ça, voilà, et lui, il va voir avec là, il a un lien parce que c'est la frère de nanana. Ça fait un peu la police, ouais, le FBI, ça, mais est-ce que tu as un truc comme ça pour
non,
suivre tes propres idées? Parce que ça va être super dur d'être raccord dans tout un livre.
Ouais.
De rien oublier.
C'est vrai. Alors, je sais qu'il y a des auteurs qui fonctionnent avec des post-it, des carnets, etc. Moi, tout est dans ma tête parce que je fonctionne un peu. Enfin, je me dis que si une idée elle reste, c'est qu'elle est bonne. Et donc, parfois, j'ai des idées de romans, de personnages qui restent des mois, des années dans ma tête et je prends le temps de les écrire plus tard parce que. Et je me dis, c'est que ça doit être une bonne idée si j'y repense régulièrement. Et après, je note quelques éléments. Quand je démarre l'écriture, etc., là, je me note quelques éléments. Mais non, c'est pas très romanesque. J'ai pas de tableau chez moi. ça sera amusant quand même.
Et combien de temps tu prends pour écrire un roman?
Alors, c'est hyper variable. Le premier roman, l'écriture s'est allée sur 6 ans. Après, il y a des périodes entières où j'ai pas du tout écrit, des périodes où j'étais beaucoup plus productive, des périodes où c'était plutôt de la recherche, des réflexions. Et puis, il a été très long à écrire parce que je me formais aussi à l'écriture en fait au cours de l'écriture du roman. Donc il m'a pris assez longtemps. Maintenant, ça, c'est plus rapide, mais ça va dépendre du temps que j'arrive à y accorder.
Et oui, parce que tu as un métier à côté.
Voilà. Je travaille à côté et j'ai une vie sociale, etc. Donc malheureusement, les heures sont assez difficiles à trouver. Donc quand je peux y consacrer du temps et que j'arrive à écrire vraiment régulièrement, c'est-à-dire quasiment tous les jours, en 3-4 mois, je peux écrire un roman complet. Après, bien sûr, il faut le réécrire. Hein. Il y a du travail de correction, de réécriture, etc. Mais disons la première version, quoi. Et puis sinon, ça peut être entre, c'est ça, 3 mois et 1 an à peu près, quoi.
D'accord. Bon. Et tes personnages, ils peuvent vivre depuis très longtemps dans ta tête et aboutir en 1 an, quoi.
Oui, je pense que j'ai eu l'idée de Claire de Lune, vraiment la genèse de l'idée quand j'étais en terminale et j'ai commencé à l'écrire plusieurs années après, ouais.
Pas mal. Intéressant. Moi, je vous propose d'écouter un autre titre de ta sélection. J'ai aussi des cadeaux à vous faire gagner. Il s'agit d'un concert, le ciné-concert Blackmail, qui sera à l'Escale de Tournefeuille. Il y a des places à gagner. C'est le 29 novembre. C'est du jazz. Et du coup, pour gagner, c'est simple. Il suffit de nous appeler au 05 61 580 580. 05 61 580 580. Et nous, on va écouter M. Je dis M parce que c'est le thème aussi. Il y a un peu de ça dans tes livres. Allez, c'est parti. On se retrouve juste après. Et n'hésitez pas à appeler pendant que la pub se lance encore une fois. C'est ma catastrophe de toutes les semaines. Allez, on écoute du coup M avec Jeudi M.
après pour l'avant. Je dis hier. Hey. Pour le dehors, le dedans. Pour l'après, pour l'avant.
L'anecdote de la machine à café. C'est l'anecdote que tu racontes tous les matins à la machine à café. On n'avait pas trouvé de titre mieux.
On va faire un petit peu de culture G. Alors tu peux participer évidemment.
Ça marche.
Les anecdotes de culture générale. Donc du coup en fait c'est juste des anecdotes que tu pourras raconter demain à ton travail.
Parfait.
Pour histoire de te la péter, genre ouais, tu sais plein de choses et tout. Voilà. Allez, on commence tout d'abord avec les bougies d'anniversaire. Vous ne partagez pas qu'un seul bon moment avec des proches, vous partagez aussi vos bactéries. Bon, vous s'en doutez un petit peu. Mais selon, maintenant, on peut savoir grâce à une étude le nombre de bactéries. Elle est multipliée par 14 sur le gâteau.
Ah,
et la gamme de bactéries et leur diversité devient alors 100 fois plus grande. C'est dégueulasse.
Chouette.
Vive le Covid, tout ça. C'est vrai qu'on en parlait beaucoup pendant la période de Covid. Soufflez pas les bougies et tout, sinon vous allez tuer mamie. Ben ouais. c'est bon, hein, tout temps. Le premier nom connu attribué à un chat, c'était en Égypte, il y a quelque 3500 ans, sous le règne de Toutmosis, c'était le pharaon de l'époque, 3, pardon, j'ai oublié le 3. Il s'agit du nom Nedjem, un nom qui signifie, selon les cas, plaisant, doux ou encore chéri.
Oh.
Est-ce que c'était mignon?
Oh, c'est mignon, ouais.
Allez, là, ça sera l'info la plus glam de la soirée. Ben, elle concerne les grenouilles. Certains animaux, sachez qu'ils ne peuvent pas vomir. Dans le cas notamment des grenouilles, qui, lorsqu'elles absorbent un aliment toxique, régurgitent leur estomac. Elles l'éjectent, puis nettoient avec leurs petites pattes avant de le remettre en place.
Sympa. Ah, oh, je savais pas. Ah,
alors là,
c'est incroyable.
Je comprends pas comment ça peut marcher parce que du coup, ça doit être accroché à quelque chose quand même à l'intérieur, quoi.
C'est
trop bizarre. On saute de suite en Amérique avec la ville de Mexico qui s'enfonce dans le sol à un rythme alarmant. Donc toi qui es concerné par l'écologie, sache que chaque année, elle s'enfonce de 50 cm et des spécialistes estiment que la situation ne s'arrangera pas dans les prochaines décennies. Elle a été construite dans le lit d'un ancien lac Texcoco. Et la capitale pourrait perdre encore 30 mètres. C'est énorme, t'imagines?
C'est
le centre de l'Amérique, dingue, ouais. Il va y avoir un trou avec un océan au milieu et des vestiges au fond, je pense. Et je pense qu'on ne peut rien faire, là. C'est très pessimiste, ce que je dis. autre chose sur le sujet de la typographie. En 1970, il n'y avait pas de point d'exclamation sur les claviers. Sur les machines à écrire, il fallait taper un point, puis reculer le chariot d'un cran et taper une apostrophe afin que la superposition des caractères forme un point d'exclamation. Ben, tu sais, on se demande toujours qu'est-ce que c'est ce tuyau-là. Oui, c'est une barre, mais voilà, en fait, je pense que c'est un vestige de l'ancien temps de 1970 des machines. C'était beaucoup moins fréquent d'utiliser le point d'exclamation à l'époque qu'aujourd'hui. Maintenant, on en met dans tous les SMS.
Oui, clairement. Je l'utilise beaucoup trop.
Ouais, très enjoué. autre anecdote, tous les 50 ans, le nord-est de l'Inde est frappé par le Motam. C'est un phénomène écologique cyclique qui est déclenché par la floraison synchronisée de tous les bambous de l'espèce Melocana bassifera, systématiquement suivi par une invasion de rats, des rats noirs qui prolifèrent grâce aux fruits de ce bambou. Lorsqu'il n'en a plus, les rats quittent alors les forêts et s'attaquent aux réserves des paysans, provoquant de graves famines. Les pauvres.
Alors moi qui, ah, la vache.
Moi qui, alors en plus eux ils adorent les rats là dans les temples là, ils les vénèrent. Moi j'ai horreur de ça, je mettrais tous les chats du quartier presque. Mais ça me donne des frissons rien que d'y penser. Bon, on va terminer sur une note beaucoup plus joyeuse. Chez nos voisins les Suisses, il existe un impôt, enfin beaucoup plus joyeuse, je sais pas. Juste. Et je trouve ça très bien. En Suisse, il existe un impôt pour les chiens. C'est les propriétaires qui doivent s'acquitter d'une taxe qui varie en fonction de la localité et du nombre de chiens que l'on a. Les autorités ont le droit d'abattre les chiens dont la taxe n'a pas été payée et certains chiens sont exemptés, comme les chiens d'aveugles par exemple. Mais en vrai, ça responsabilise beaucoup les propriétaires, quoi.
Oui, ça évite les abandons.
Exactement. Et c'est dans ce cas-là où je dis que c'est peut-être un peu plus juste.
Par contre, joyeux. Tuer les chiens,
c'est quand les chiens où cool, le maître n'a pas payé.
Ça, c'est quand même vraiment pas cool.
Et le mot du jour, alors c'est un mot que je vais essayer de te faire deviner. Il faut que tu me dises qu'est-ce que ça veut dire. C'est achaler. A-C-H-A-L-E-R.
Achaler, ah, j'ai jamais entendu ce mot. Tu veux pas me demander jupe jetée?
Non. Non, franchement, si tu me dis quelque chose qui va pas me faire plaisir, tu peux m'achaler. Tu dis quelque chose, tu dis ta veste elle est moche. Et tu peux m'achaler. C'est contrarié.
Ah, juste. Ok, tout simplement. C'est un synonyme. Ok, voilà. Eh ben, écoute, tu m'as appris un mot.
Bon, on l'aura oublié peut-être demain.
Sans doute.
Allez, on va écouter un autre titre de la playlist du jour. On rappelle qu'il y a des places à gagner pour un concert. Le concert, il s'agit du ciné-concert Blackmail qui se déroulera à l'Escale de Tournefeuille le 29 novembre. C'est du jazz. Appelez-nous 05 61 580 580. Et tout de suite, on va écouter le grand Francis Cabrel. Et cette fois-ci, c'est La Corrida. Pour aller avec, du coup, ce que tu disais, l'écologie.
Oui, la cause animale.
La cause animale. C'est parti. C'est parti, Francis.
Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Andalousie, je me souviens les prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? J'en ai poursuivi des fantômes, presque touché leurs ballerines. Ils ont frappé fort dans mon cou pour que je m'incline. Sortent d'où ces acrobates avec leurs costumes de papier. J'ai jamais appris à me battre contre des poupées. tromper. Sentir le sable sous ma tête, c'est fou comme ça peut faire du bien. J'ai prié pour que tout s'arrête en Andalousie. Je me souviens. Je les entends rire comme je râle. Je les vois danser comme je succombe. Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. Que ce monde est sérieux. Est-ce que ce monde est sérieux?
Si, si, hombre, hombre. Baila, baila. Hay que bailar de nuevo. Y mataré los otros.
Otras vidas y otros toros. Mataremos otros.
Venga, venga, baila. Y mataré los otros.
C'est l'invité du 19 hors taxe. Attention, il y a des cafards dans lesquels.
Est-ce que l'invité du 19 hors taxe a vu les cafards dans l'escalier?
Mais oui, j'ai vu les cafards
c'est
dans l'escalier.
C'est pas une blague, hein?
Non, c'est pas une blague.
J'interroge toujours les invités parce qu'il y en a qui ne le voient pas. Et pourtant, c'est quand même spécifique à FMR quand même d'avoir des dessins comme ça.
Ouais, il y a les petits autocollants de cafards dans l'escalier.
C'est ça. Allez, mais du coup, Mélanie, on va. Donc, je rappelle aux auditeurs que je suis avec Mélanie Lebas, qui est auteure, qui a écrit 3 livres, Clair de Lune, Même si l'on se perd et L'océan qui nous lie. Et aujourd'hui, bah, du coup, tu es là pour en parler avec nous de ton univers. Quelles sont tes inspirations, tes sources d'inspiration pour ces livres?
Alors, c'est assez varié.
Ouais. Ouais, alors, l'écologie, je l'entends. Est-ce que l'histoire peut-être te fascine aussi?
Oui. Tout à fait. Donc, mes deux premiers romans sont des romans historiques. Et donc, au début, c'était vraiment la période de la Seconde Guerre mondiale qui me fascine en histoire. Voilà, c'est une période qui me passionnait beaucoup. Et donc, au cours de mon adolescence, je m'étais beaucoup documentée sur le sujet. Donc, j'avais une bonne culture générale, on va dire, de cette période. Et c'est assez naturellement, en fait, que j'ai imaginé un roman qui se déroulerait pendant cette période, avec en fond cette question de bah, si j'avais vécu à cette époque, si j'avais été une jeune personne à cette époque, qu'est-ce que j'aurais fait. Et c'est un peu
Née en 39
question...
avec Liechtenstein, la chanson de Goldman.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Exactement. Et vraiment, c'est une question qui m'a animée pendant l'écriture. Après, mes sources d'inspiration, elles sont super variées. Ça peut être des documentaires, des films, des romans, des livres d'histoire, tout simplement. Ça a pu être des cours même que j'ai eu à l'école. Et je me dis, oh tiens, c'est intéressant et tout. Ça peut être des voyages, des gens aussi, parce que pour créer des personnages, ben en fait, on s'inspire aussi des gens qui sont autour de nous, de certains traits de caractère ou de passion ou d'anecdotes et qu'on peut utiliser. Alors évidemment, on crée jamais un personnage qui est une copie d'un ami ou d'une personne de sa famille, parce que c'est d'une part c'est pas intéressant, et puis c'est pas l'objectif qu'une personne se reconnaisse, mais on tire toujours un petit peu des choses de notre entourage, donc c'est assez amusant. Et donc voilà, enfin les sources d'inspiration, elles sont vraiment tout autour. Je dirais que je suis un peu une éponge de plein de choses, quoi. Et puis des fois je range des éléments dans ma tête et je les ressors pour des romans beaucoup plus tard, quoi.
J'ai fait un petit tour sur tes réseaux sociaux, et alors c'est original parce que tu as créé un petit vlog qui tourne autour de ta personne, ton personnage principal, de l'océan qui nous lie.
Oui.
De Jade.
Tout à fait.
Alors, tu peux nous en parler un petit peu plus ? Comment tu te lances sur ça ?
Oui, ben en fait, c'était dans le roman, Jade tient un blog. Donc, elle écrit des choses sur son voyage et ça lui permet de retrouver un peu le lien avec son métier de journaliste, notamment, et de parler de son expédition. Et donc, c'est mon éditrice qui m'avait dit bah, ça pourrait être une super bonne idée de refaire un peu ce format blog pour parler du roman et du personnage. Et comme ça, voilà, teaser un peu, donner des éléments. Voilà, c'était une manière originale de communiquer sur le roman. J'ai trouvé que c'est une bonne idée. Et donc, du coup, j'ai écrit 6 épisodes. C'est des textes très courts, hein. Comme un post finalement, et voilà, j'ai créé des petites vignettes et voilà, écrit des éléments, et donc on suit un petit peu le personnage sur les, c'est un peu l'équivalent des tout premiers chapitres, voilà, pour donner un peu envie de découvrir
pas,
le roman, quoi.
C'est des choses qui se passent dans le livre, mais c'est pas un truc en plus à la suite du livre.
C'est quand même des écrits inédits, c'est-à-dire qu'on retrouve pas le texte dans le roman.
D'accord.
Mais je prends des éléments de l'histoire du roman, vraiment du tout début, quoi. C'est un peu comme un pitch, mais un format un peu différent, quoi.
Et tu les as préparés avant ou tu les fais au fil de ton inspiration?
Je les ai préparés un peu en bloc pour prévoir les publications après sur Instagram, mais je les ai préparés, enfin le roman était déjà écrit, fini, imprimé, enfin voilà, c'est vraiment un truc que j'ai fait après, quoi.
D'accord. Alors tu nous parlais tout à l'heure des traits de caractère de ton entourage qui pouvaient se retrouver de temps en temps dans les livres. Est-ce que c'est ton entourage, ta famille, tes amis qui font tes crash tests et qui lisent tes livres pour te dire ça c'est bien, ça c'est pas bien? C'est pas dur des fois de justement entendre les critiques des gens proches?
Alors au début, quand j'ai commencé l'écriture, j'en parlais très très peu autour de moi. Il y avait un peu quelque chose d'intime, et surtout j'avais peur d'être hyper arrogante en disant que j'écrivais un roman, parce que c'est quand même un peu bizarre au début de dire ça. Au fur et à mesure que l'écriture avançait et que c'était de plus en plus abouti, j'ai commencé à en parler autour de moi, et en fait ça a eu un effet super motivant pour moi, parce que je me confrontais pour la première fois à la critique, et les gens étaient super enthousiastes autour du projet et donnaient des retours constructifs. Enfin, c'était vraiment génial de pouvoir en parler. Et donc, en fait, ça m'a vachement débloqué. J'ai commencé à en parler beaucoup plus et d'assumer le fait que j'écrivais un roman et que oui, j'aimerais bien qu'il soit publié. Et voilà, donc ça m'a vachement aidée. Et maintenant, effectivement, j'ai des amis proches qui sont mes bêta-lecteurs, c'est le jargon d'auteur, qui donc lisent mon manuscrit quand j'ai terminé la première version, et qui me font des retours et qui m'aident beaucoup à améliorer le texte, parce que des fois, on manque de recul quand on est à force d'être des mois sur le même projet. Ben, on ne voit plus forcément les incohérences ou bien les passages qui sont trop expédiés ou les personnages qui ne sont pas assez développés. Et donc ça aide vraiment d'avoir des lecteurs dans le processus d'écriture pour améliorer ensuite le texte et le faire éditer après.
Alors on n'en a pas parlé au début, on aurait pu. Tu as été récompensée avec le prix de la romance en 2021, pardon, de France Loisirs.
Tout à fait.
C'est quand même trop bien. C'était sur quel livre ?
C'était super chouette. Ben, c'était sur Claire de Lune.
Claire de Lune.
Donc c'est un prix qui était organisé chaque année avec France Loisirs et Nouvelle Plume, ma maison d'édition, et qui récompensait un roman. Et effectivement, Claire de Lune a remporté ce prix en 2021. Donc c'était une super surprise. Premier roman publié et avec le prix, c'était vraiment...
un
incroyable.
Joli départ.
Exactement.
Et je me disais, ça doit faire une drôle d'impression pour un auteur de se dire que voilà, t'as quelque chose qui est dans ta tête, tu le mets par écrit et puis après tu le publies et il y a plein de gens qui le lisent. Genre,
oui.
C'est un peu rentré dans ta pudeur presque. Enfin, c'est très dans ton intimité, dans ta tête. Comment
oui.
Tu le vis toi?
Je le vis très bien parce que c'est vraiment un échange, c'est-à-dire que moi, mon avis de lectrice, c'est que je lis un roman pour avoir des émotions. Et donc, quand j'écris un roman, le but, c'est de procurer des émotions au lecteur. Et donc j'ai vraiment ce prisme. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est pas tant de se dire que les gens sont en train de le lire, mais c'est surtout quand on a des retours vraiment de gens qu'on ne connaît pas, qui sont pas dans notre famille, pas dans nos amis, et qui prennent le temps d'écrire sur les réseaux sociaux, sur des avis aussi sur les sites Babelio ou sur les sites d'achat, quoi, qui laissent un avis sur le texte et qui disent qu'ils ont vécu des émotions dans le roman. J'ai des gens qui m'ont dit qu'ils ont pleuré. Ouais, on se rend compte que les gens, ils ont vraiment vécu quelque chose de fort en lisant son texte. Et c'est ça qui est incroyable, de recevoir ces retours et de se dire qu'on a créé ce lien en fait, par le biais d'un texte. Et ça, c'est ça que je m'en remets toujours pas. Enfin, je suis toujours émerveillée quand j'ai des retours, quand je rencontre des lecteurs. C'est vraiment incroyable à vivre.
Ouais, j'imagine. Est-ce que t'as déjà tu travailles déjà sur un autre livre?
Tout à fait. Donc
je suis.
je continue à écrire. Alors, ça prend toujours un peu de temps d'écrire un roman, comme on en parlait tout à l'heure. Mais là, je suis sur la fin de l'écriture de mon quatrième roman, qui est aussi un roman contemporain, un peu plus dans l'esprit de L'océan qui nous lie que de mes deux premiers romans. Et donc, j'ai terminé la première écriture. Et là, je suis en phase justement où je vais travailler avec mes bêta lecteurs pour avoir des retours avant de le proposer à une maison d'édition. Okay.
Est-ce qu'à côté, tu as d'autres projets ou pas du tout? Tu es focus sur un livre à la fois?
Souvent, c'est vraiment un livre à la fois parce que ça demande quand même pas mal de concentration, etc. Et moi, je trouve que ce n'est pas hyper efficace de s'éparpiller sur plusieurs projets. Mais je commence déjà à réfléchir au cinquième roman et donc j'ai déjà des idées. Mais là, voilà, tout est dans ma tête, justement, je n'ai pas pris de notes. Mais sur un cinquième roman, voilà, j'ai des idées effectivement qui sont déjà dans un petit coin de ma tête.
Et sur tes réseaux sociaux, j'ai aussi vu que tu postais des avis de lecture. Alors, quel est le dernier livre que tu as lu et que tu pourrais nous conseiller?
Alors, le dernier livre que j'ai lu, c'est Trois. Je vais manger
comme
le nom.
Comme le film?
Il y a un film qui s'appelle Trois?
Je crois.
C'est possible.
Non,
c'est
avec des beaux gosses, non? Je vais chercher.
C'est une histoire d'amitié. Attends, mais c'est fou, je connais le nom, elle est hyper connue, cette actrice. Valérie Perrin, c'est ça?
Trois, alors je suis tombée sur la ville, on va mettre film. Trois films, c'est sorti en 2004, Aventure-Guerre.
Ah oui, ça c'est le film. Mais du coup, le roman, okay. Il est sorti beaucoup plus récemment, il est sorti en 2019. C'est un roman assez connu qui raconte une histoire d'amitié de trois amis d'enfance qui se retrouvent séparés par la vie.
Ah, mais Trois avec un S?
Trois avec un S, oui.
Ah, j'étais Trois avec un E.
Ah. Ah oui, d'accord. Non, vraiment pas du tout la même chose.
Ok.
Donc c'était une belle lecture et sinon je lis un peu de tout, de la fantasy.
Et tu postes tes avis de temps en temps.
Oui, voilà, j'aime bien. Là, j'avoue qu'en fait, j'ai plusieurs livres de retard.
Oula.
J'ai un peu moins posté récemment, j'ai un peu moins pris le temps de poster sur les réseaux sociaux. Donc voilà, j'ai des posts en retard.
Alors bientôt, on va pouvoir peut-être poster nos propres avis sur nos propres réseaux si on lit en livre.
Ah, tout à fait.
Comment on peut les retrouver? Comment on peut les acheter?
Alors, mes deux premiers romans, donc, ils sont plus disponibles à la vente puisque ma maison d'édition a fermé. Donc j'en ai personnellement. Donc, il faut m'écrire par mail et j'ai des exemplaires à la maison qui sont disponibles à la vente. Et mon troisième roman, lui, est toujours disponible en librairie. Donc, dans n'importe quelle librairie, vous pouvez, soit il sera en rayon, sinon le libraire pourra le commander. Et sinon, directement sur le site internet de ma maison d'édition qui s'appelle K-Plume. K-A-Plume.
Ouais. K-Plume. Ok. Et dernière question subsidiaire. Si tu devais donner un conseil à une jeune fille ou un jeune garçon qui écrit dans sa chambre et qui rêve d'être un jour publié, ce serait quoi?
Je dirais vraiment avant tout, écris pour toi. Écris ce que tu as envie d'écrire et de lire ce que tu aurais envie de lire. Écris pas pour un éditeur ou pour un objectif ou pour le voir publié. Écris pour toi, avec ton cœur, avec ton ventre. Et ensuite, tu verras.
Tu verras. Très bien. On va écouter un autre titre de ta sélection. C'est Free Falling. Et c'est de... John Mayer.
John Mayer. Fait.
On se retrouve juste après pour la dernière partie d'émission, l'agenda éphémère. On se retrouve dans 3 minutes. She's a good girl, loves her mama, loves Jesus and America too. She's a good girl, crazy about Elvis, loves horses
and a boyfriend too, yeah, yeah. It's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard. I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart, and I'm free, free falling, falling. All the vampires walking through the valley, they move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys standing in the shadows, and the girls are home with broken hearts, and I'm free, free falling, falling. Now I'm free, free falling, falling. Free falling now, free falling now, free falling. I wanna free fall out into nothing. Oh, I'm gonna leave this world for a while. Now I'm free, free falling, falling. Now I'm free, free falling, falling.
We'll see you in a few minutes.
Toutes les sorties ici à Toulouse, c'est l'heure de l'agenda dans le 19 hors taxe.
Pas d'émission la semaine prochaine, du coup il va falloir faire une petite provision d'activités à faire sur les jours à venir. On va commencer avec le Connexion, avec qui on a un partenariat et qui nous a proposé plein de soirées. On commence le mercredi 29 novembre. Il y a un spectacle qui est avec l'ancien claviériste, je sais pas comment on dit, du célèbre groupe funk metal américain Faith No More et Joey Holman. Donc ils ont composé un duo qui s'appelle Man on Man. Donc n'hésitez pas à y aller mercredi 29 aux Connexions. Jeudi 30 également aux Connexions, il y a Voisins des Rues, c'est une association toulousaine qui organise des maraudes pour venir en aide aux gens dans le besoin, et le collectif d'artistes Ciel et Terre qui reviennent pour un concert caritatif. Ça sera donc du coup aux Connexions, n'hésitez pas à y aller. Le Coco Club, je ne sais pas si ça te parle Mélanie, c'est un club qui a ouvert du côté Balma. Et ben, c'est la première bougie qui souffle cet hiver. Donc, ça fait un peu rêver le Coco Club, il y a des palmiers partout, tout ça, mais okay. Ça va rester chaud dans tous les sens du terme, avec son immense terrasse, son espace total de 1400 m². C'est un lieu d'exception pour aller prendre un repas, bien sûr avec modération. Je recommence. au moment de l'anniversaire, parce qu'ils vont faire une petite fête. C'est le thème doré du coup pour cette soirée-là. Il y aura un DJ et ça sera donc du coup le 23 novembre ce soir, à partir de 22h le DJ, mais sinon vous pouvez y aller pour commencer à faire la fête un petit peu plus tôt. Le Girls Don't Cry Festival au Métronome. Donc ça, il est de retour pour une toute nouvelle édition. C'est un petit festival placé sous le signe des musiques électroniques avec une programmation pointue mettant en avant les femmes. Et cette année encore, la salle des concerts de Bordeaux Rouge, donc du coup le Métronome, va devenir un dance floor géant pour accueillir sur scène Mika Oki, Ojilo, Alexis Schell, Faustine et bien d'autres pour 3 jours de fête électro. Donc c'est du 24 au dimanche 26 novembre. Toutes les infos et la programmation complète sur le Métronome. Ouverture d'un pop-up store, là c'est super sympa, un pop-up store de Noël, 100% made in France, et c'est à Toulouse. Il y aura des objets mode, maison beauté, enfance, food et animaux, le tout pendant 16 jours non-stop. Il y a de nombreuses marques qui seront à retrouver, donc comme je vous disais, plein de choses à découvrir. C'est du 25 novembre au 10 décembre, et c'est 5 rue JF Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, voilà, ça à Toulouse. Le marché des créateurs. On en parle souvent des marchés des créateurs et de créatrices. Samedi 25 novembre, il y en aura un à Esquirol. L'entrée est gratuite. Donc, vous retrouverez plein de petites choses, de l'artisanat, de la céramique, de la couture, de la déco, des créations pour tous les goûts, pour offrir ou pour garder précieusement pour soi. C'est 3 rue Pérolière et c'est samedi 25 novembre à partir de 10h. Sinon, une petite activité originale. Le 26 novembre, à partir de 11h, il y a le Toulouse Drag Brunch Smart Show. Donc, en fait, c'est un show drag queen avec des buffets sucrés, salés, des choix gourmands à la carte et la bonne humeur. Ça se passe aux Munitionnettes et c'est à partir de 11h30 le 26 novembre. Et enfin, une info qui est vraiment trop cool. C'est la Clean Walk de Toulouse au départ de la gare Matabiau. Donc, c'est une journée solidaire de ramassage de déchets. Ils vous fournissent des gants, ils vous fournissent des sacs et vous venez pour aider la planète à aller mieux. C'est trop cool d'organiser des trucs comme ça.
Ouais, clairement.
Et il faut en parler. C'est dimanche 26 novembre à partir de 14h à la gare Matabiau. Départ à la gare et vous allez vous balader dans la ville tout en ramassant les mégots ou les autres petits déchets que certains trouvent... je sais pas comment dire... ils jettent partout et en fait ils trouvent ça inutile de prendre conscience que la planète va mal et qu'il faut faire attention, que chaque petit geste compte, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs.
Oui.
Voilà. Alors on arrive à la fin de l'émission, il nous reste quelques minutes. Je te propose, Mélanie, de faire les 45 secondes de l'invité. Allez. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est 45 secondes où le micro est ouvert pour toi. C'est un petit exercice où tu peux parler de ce que tu veux, faire une dédicace à ta famille, à tes amis, parler de ton livre, les inciter les auditeurs à acheter ton livre. C'est toi qui décides, tu peux faire aussi une blague, ta meilleure blague, je ne sais pas. 45 secondes, ça peut paraître très long, mais aussi ça peut être très court, ça dépend de ton humeur du jour. À toi de jauger, on va voir si tu réussis.
Ah, je suis prise au dépourvu.
Ah ouais, ouais. Donc du coup, le minuteur est parti, 45 secondes, go.
C'est parti. Je voudrais en profiter pour te remercier de m'avoir accueillie dans cette émission. C'est vraiment un plaisir de participer et de faire ça, de parler de mes romans, mais pas que. Donc merci de m'avoir accueillie ici avec toi. C'est un super exercice, je me suis beaucoup amusée.
Voilà, c'est fini ?
Ouais.
Ok, t'avais utilisé que 20 secondes.
Oh là là, j'étais large.
Mais merci à toi en tout cas aussi, parce que c'est vachement cool. Alors pour la petite anecdote, on s'est rencontrés dans un BlaBlaCar.
Oui, ça c'est vrai, ouais. on pourrait raconter ça.
Voilà, donc du coup, on s'est rencontrés comme ça, et c'est grave cool de rencontrer des gens qui ont des projets vachement aboutis et puis qui sont passionnés par des choses diverses. Diverses et variées, moi aussi du coup.
Mais ouais, avec ton émission, c'est génial.
Et ça avait plutôt bien matché dans le BlaBlaCar.
Carrément. Et quelques mois plus tard, un mail dans ma boîte mail. Salut Mélanie, tu voudrais pas venir faire l'émission ?
Ouais, j'avais gardé dans mon téléphone, chouette, ouais. J'avais noté secrètement. Je t'ai dit à un moment donné, je lui écrirai quand ce sera le moment. Du coup, on va se quitter avec une chanson que tu as choisie, qui est en rapport avec un de tes livres.
Tout à fait.
Et on se quitte...
Éponyme.
Voilà. Éponyme, c'est Clair de Lune, c'est le classique de Debussy.
Tout à fait.
Et on va juste se quitter comme ça. On se retrouve dans 2 semaines avec des invités. C'est Toulouse en feu, on en a déjà parlé, mais c'est pour leur événement qui va se passer aussi aux Connexions. C'est l'événement où on n'annonce pas les artistes, mais on cherche à faire salle complète. Donc, écoutez, on va découvrir ça juste avant que ça se passe début décembre. Je crois que c'est le 9 décembre. On les reçoit le 7. Donc, on se retrouve dans 2 semaines. Bonne soirée à tous. Et à très vite. Bisous.